Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
~7h49, Denis Gravel qui est en place. Je suis pas du tout d'accord avec l'ex-ministre Saint-Pierre qui mentionne qu'elle aurait dû en parler à des gens du parti, des avocats du parti. Quand tu sais pas trop de quel bord est qui, là, t'es aussi bien de te fier à ton avocat à toi qui te dit « Tu sais quoi? Tu fermes ta gueule! » T'attends qu'on se rende en cour avec ça et là, tu donneras les éléments principaux de la raison pour laquelle t'as fait ci et t'as fait ça.
Surtout quand t'as l'impression d'être en terrain hostile, ben même oui. Au sein de ton propre parti. Là.
Parce qu'elle doutait du chef, oui. Pablo Rodriguez, oui. Elle doutait de son entourage, elle doutait
de l'intégrité de ces gens-là autour d'elle.
Exact. Donc l'avocat, ce qu'il a dit, c'est « tu fermes ». Ta gueule.
Et il l'a très bien conseillé parce que la suite des événements lui a donné raison. Là.
Exact. Comment ça va, Denis Gravel?
Ça va bien, vous autres?
Ben oui, je suis content de te voir. Max avait pas préparé ta chaise, Denis?
Ouais, je sais pas si c'était mal intentionné de sa part.
Un certain relâchement.
Ou il a vu que j'ai pris du poids pendant la période des fêtes puis il veut que je commence à me mettre en shape en faisant de la radio debout. Je sais pas.
Non, mais moi, je trouve qu'on est toujours plus naturel debout. Moi, j'adore faire de la radio. Debout.
Pourquoi t'en fais pas debout?
Parce que ça va mal pour faire les nouvelles. Dans le point de Max, je suis toujours debout.
Ouais, moi aussi, quand j'anime, je suis toujours debout derrière la console. Ouais.
Quand j'avais commencé ma première émission ici, je me disais, c'est un nouveau départ, je fais ça debout. Ça a pris 10 secondes, puis je m'étais rassis. On est des créatures d'habitude.
Denis, est-ce que l'empathie à l'égard de certains individus peut être un problème? Moi, j'ai un problème d'empathie. Je le sais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps de l'empathie à travers les étapes que certaines personnes peuvent vivre. Puis des fois, je m'accapare ces étapes-là. C'est pour te dire à quel point c'est une problématique. Là. Mais là, un matin, je suis en sacrament.
Ben voyons.
T'as-tu des problèmes d'empathie, toi?
Je travaille. L'empathie, ça me fascine beaucoup. Puis c'est quelque chose que j'essaye de travailler depuis une dizaine d'années
comme
à peu près.
Comme tout bon psychopathe, oui.
Parce que... Mais l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Puis je trouve que... On aurait des débats plus sains si le premier exercice que tu fais, c'est de dire « Cette personne-là n'est pas d'accord avec ce que je pense. Pourquoi? »
Oui.
Puis d'essayer de comprendre. Pas « Parce qu'il est cave! » Non, non, non. Cette personne-là pense qu'elle a raison aussi. Pourquoi? C'est-tu du milieu duquel elle vient? C'est-tu des expériences de vie qu'elle a vécues? C'est-tu un problème de valeur? Puis d'aider à comprendre ce qui n'est pas ton opinion à toi, je pense que ça peut t'aider à réfléchir aussi, parce que la question après ça rebondit. Cette personne-là pense ça à cause de ça. Maintenant, moi, je pense ça parce que quoi? Parce que quelqu'un l'a dit à la radio, parce que j'ai fait mes recherches sur Internet, parce que ça vient vraiment de moi, ce que je pense. Puis je trouve ça plus sain pour partir une réflexion. Fait que j'essaye de travailler là-dessus parce que je souffre d'un grand manque d'empathie. D'avoir des enfants, ça m'a aidé à en avoir un petit peu plus. De vivre des problèmes de santé avec un enfant puis de voir des gens vraiment dans le trouble qu'ils ne méritaient pas, qui passent des années à l'hôpital, ça m'a amené à... Ça m'a forcé, en fait. La vie m'a forcé à avoir un petit peu plus d'empathie puis à mettre ça dans mes exercices de base quand on regarde l'actualité puis ce qui se passe autour de nous autres. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire le plus possible.
Moi, des fois, mon empathie exagérée m'a aidé puis des fois, me nuit. J'ai aidé des gens qui méritaient pas d'être aidés. J'ai aidé des gens qui méritaient d'être aidés puis ça, ben c'est correct. Mais des fois, je me dis, je pourrais peut-être moins en avoir, surtout avec des gens que je connais pas. Denis Coderre est un gars que je connais pas.
Ouais.
J'ai parlé quelques fois sur Internet pour des échanges de trucs. Je l'ai eu en entrevue quelques fois, mais je regardais son traitement par certains médias puis je trouvais ça cruel. J'étais là, Chris, lâchez-les.
Le gars, il est en marre.
Le pire, c'est que c'est moi le premier qui est tout le temps en train de faire des jokes sur Denis Coderre, mais Denis Coderre m'apparaît comme quelqu'un de malheureux. Puis c'est vrai qu'on n'est pas correct à varger dessus. Je suis d'accord avec toi à 200%.
J'avais de l'empathie pour Denis Coderre. Max, parle-moi des dettes de Denis Coderre. Puis après ça, Denis m'a parlé des revenus de Denis Coderre.
Hmm.
Denis Coderre qui s'est placé sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. On lit dans le Journal de Québec ce matin que l'ancien maire de Montréal aurait accumulé près de 1,1 million de dollars de créances, attribue ses difficultés financières à tout plein d'épreuves personnelles. Elle parle de maladie, d'un décès autour de lui, un divorce et le fameux harcèlement médiatique. Là, il doit de l'argent à pas mal de monde. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en ce moment, il y a très peu d'actifs depuis la vente de sa maison et qu'en date du 6 janvier, déclarait n'en posséder tout au plus que pour 44 000 $. Lui qui déclare des revenus nets...
T'as peu. Arrête-le.
Parfait.
Il est endetté en sacrement.
C'est terrible.
C'est souvent l'effet qu'une nouvelle blonde... C'est pas là où je vais aller. C'est...
Non, mais regarde...
Il est endetté en sacrement.
Vu que t'ouvres la parenthèse, il manque quelqu'un parmi les gens. C'est de la faute à qui? Denis Coderre.
Oui, c'est Denis Coderre.
Parce que là, c'est l'acharnement médiatique, c'est les moments difficiles, c'est la situation, c'est un paquet de choses. Mais parmi les gens à blâmer, je suggère qu'il y a possiblement aussi Denis Coderre.
Ses revenus actuels s'élèveraient à 16 959 $ net par mois. Ce qui représente à peu près 204 000 $ par année après impôts. On parle de revenus d'emploi mensuel de 7 745,96 après impôts par mois. Et comme il a fait de la politique au fédéral et au provincial, t'ajoutes une pension de retraite de 9 213 $ cash par mois.
Il part avec une belle avance pour affronter les épreuves.
Fait que d'un bord, il y a 8 000 $ par mois et de l'autre bord, il y a 9 000 $ par mois. Ça fait 17 000 $ par mois. Mon empathie est partie.
moi, vois-tu, l'empathie est partie quand il a expliqué le pourquoi. Moi, j'aime les gens qui prennent leurs responsabilités. Puis Denis Coderre nous explique que c'est de la faute d'un paquet d'affaires s'il se doit le cul. Mais moi, je pense que c'est de la faute à Denis Coderre, puis je pense que les chiffres que tu viens de nous donner me donnent raison, là, par défaut. Là. Il y a des gens qui passent à travers un paquet d'épreuves difficiles dans la vie. Une séparation, c'est pas facile. D'essayer de se partager la garde d'enfants, c'est pas facile. De se ramasser à l'hôpital à cause d'un proche ou à cause de soi-même, c'est pas facile non plus. Mais il y a des gens qui n'ont pas ces revenus-là, qui réussissent à gérer et à passer à travers toutes les épreuves. Veux-tu même dire aussi que Denis Coderre passe tout son cash parce qu'il y a quand même des revenus confortables, là, on va se le dire entre nous autres.
Je viens de te dire qu'une nouvelle blonde, ça coûte cher.
Je peux pas croire.
Je le sais
pas. Je peux pas croire.
Mais c'est ça. J'avais de l'empathie pour Denis Coderre avec tout ce qui lui arrivait. Je comprends ton point. Mm. C'est-à-dire que Denis Coderre semble pas dire que tout ça, c'est de sa responsabilité et c'est tout le temps de la faute des autres. Est-ce qu'il y a eu de l'acharnement médiatique à son égard? Peut-être dans certains cas.
Je pense pas que ça y ait coûté de l'argent.
Cas, non, mais...
T'sais, l'acharnement médiatique, ça sous-entend que c'est de la faute des médias, peut-être s'il n'est pas revenu en politique. Entre vous et moi, est-ce qu'il y avait encore une place en politique pour Denis Coderre? Je veux dire, enlève les médias de l'équation. Là.
Mais non.
Les médias, ils ont fait leur travail, puis ils ont trouvé les dettes. T'sais, si le narratif avait été que finalement Denis Coderre ne devait pas d'argent, puis qu'il n'y avait pas de problème avec Revenu Québec, puis avec le fisc, là, on aurait pu parler d'acharnement médiatique. Mais il n'y a pas d'acharnement médiatique. Il y a des journalistes qui ont fait leur travail. Puis ça, je te l'ai dit avant les fêtes, je me trouvais bien drôle. C'est quoi de l'acharnement médiatique? C'est quand les journalistes travaillent, mais sur du monde que t'aimes. Et Denis Coderre semble s'aimer quand même considérablement.
Ouais, ben ça me fait penser à la campagne municipale avec Stéphane Lachance. Mais j'ai une question pour toi, parce que je fais une parenthèse. Hier, on parlait du Parti conservateur du Québec, puis tu disais c'est une bonne affaire que le Parti populaire du Québec existe parce que ça va amener les coucous vers là.
Oui.
Mais si on est unanime autour de la table pour se dire Denis Coderre avait plus d'affaires en politique québécoise, en politique provinciale. Pourquoi Éric Duhaime s'est attaché à Denis Coderre en campagne Arthabasca?
Je pense que c'est un manque de jugement.
C'est la popularité de Denis Coderre qui intéressait Duhaime.
Il l'a mal jugé.
Parfaitement d'accord.
C'est ça. Oh, oui. Parce que ça a déjà été une personnalité médiatique. Puis je pense qu'Éric Duhaime est un petit peu désespéré d'appui, de personnalité. Ouais. Puis je pense qu'il a mal jugé le taux d'appréciation actuel de Denis Coderre. Parce que Denis Coderre a déjà été hot, puis...
Ben oui, vraiment.
Il y a bien du monde... Moi, je me souviens de la Marche bleue, OK? On a fait la Marche bleue, là, dans le coin des Plaines d'Abraham, avec les chandails de la Nordique Nation, puis tout. Et Denis Coderre, à l'époque maire de Montréal, s'est pointé à la manif avec son chandail du Canadien. Puis,
mais c'est parfait.
Ça. Mais quelqu'un d'autre aurait fait ça, puis ça aurait pu être considéré comme une agression. Ça aurait pu mal virer, tu sais. Mais c'était Denis Coderre. Puis tout le monde trouvait ça drôle. Puis lui aussi, il se trouvait drôle. Puis t'es dans une foule, les gens réagissent à la blague que tu fais. T'sais, tu vois, dans ce temps-là, Denis Coderre avait un très haut taux de popularité. Bon, c'était une drôle de période. J'ai vu 40 000 personnes applaudir Pierre-Carl Péladeau sur les plaines d'Abraham. Je comprends. C'est un contexte particulier. Mais des années plus tard, l'étoile de Denis Coderre a pâli. Ses dernières années à la mairie de Montréal, ça a été désastreux. Et ses tentatives de revenir, ça faisait désespérer. Moi, je pense que Denis Coderre est addict de la politique. Je pense que c'est la politique qui fait mal à Denis Coderre. Ouais. Puis je pense que lui se fait mal avec la politique aussi. Puis il y a quelque chose de fondamentalement triste là-dedans. Mais c'est un problème que Denis Coderre doit régler qui lui appartient. C'est pas de la faute des médias, puis c'est pas de la faute des gens autour, non. À mon humble avis.
Donc il reçoit 17 000 piastres cash par mois dans son compte en banque, puis il se doit le cul. Je retire toute l'empathie que j'avais pour lui. Il y a eu des chiffres qui sont sortis hier par le cabinet de comptable MNP. Ils ont été publiés. C'est des indices, des dette à la consommation et les chiffres sont désastreux. On parle de 17 000 piastres de revenus cash par mois. 67% des Québécois craignent une hausse du coût de la vie en 2026. Ça, c'est une augmentation du stress, une augmentation de l'anxiété aussi. 60% des gens qui pensent que se loger va leur coûter encore plus cher. La réponse, c'est oui, il va y avoir une augmentation de loyer, effectivement. 55% qui s'attendent à une baisse générale de l'économie. 61% des gens qui ont peur que la dette et le déficit s'aggravent. 58% des gens qui redoutent une hausse de la pauvreté. Et ils ont raison, parce qu'encore une fois, en 2026, les Québécois vont s'appauvrir. J'ai d'autres chiffres pour toi. 43% qui sont à 200$ ou moins de l'insolvabilité chaque mois.
C'est l'enfer, hein?
C'est l'enfer. Ouais. 744$, ça, c'est le surplus mensuel moyen des Québécois. C'est le plus faible au pays parce qu'on est la province la plus imposée en Amérique du Nord, si on inclut même les États-Unis. 40% des gens qui ont un fonds d'urgence de 6 mois. J'y crois plus ou moins, ça, ce chiffre-là. 40% des gens qui ont un fonds d'urgence de 6 mois.
Tant mieux si c'est le cas, là.
Ben, c'est parce que moi, c'est pas ce que j'entends, là.
Mm-hmm. Moi non plus.
Il y a des gens autour de moi qui sont à quelques centaines de dollars de pas arriver par mois. Ben, imagine-toi, si jamais 6 mois, pas de revenus, ces gens-là tiendront jamais le coup. Une personne sur deux, 52% des gens qui s'inquiètent de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes, même si les taux d'intérêt diminuent. 49% des gens qui craignent une hausse des taux d'intérêt parce que ça les mènerait à la faillite.
Écoute, la moitié...
Personne sur deux.
La moitié des hypothèques vont être renouvelées en 2026. La hausse des taux hypothécaires va couler beaucoup de monde dans la prochaine année, parce que la plupart des gens actuellement qui ont une maison ont un taux hypothécaire qui a été hyper favorable parce qu'ils l'ont pris pendant la pandémie, puis les taux étaient ridicules.
Ouais.
Mais là, les hausses que bien des Québécois vont subir dans la prochaine année, puis c'est déjà commencé, là. On avait ouvert la discussion là-dessus, puis on avait reçu, écoute, un torrent de textos de gens qui nous racontaient leur situation. Tu sais, la différence entre payer 100$ aux 2 semaines, puis là, ça monte à 450$ du jour au lendemain. C'est sûr qu'il faut que tu retournes sa table à dessin puis qu'il faut que tu te refasses un budget. Alors que l'épicerie monte, puis c'est drôle, on parlait de ça hier dans un autre contexte, mais l'insécurité alimentaire, c'est que tu n'es pas sûr d'être en mesure de payer l'épicerie à la fin de la semaine. Il y en a de plus en plus qui se retrouvent dans cette situation-là. Puis c'est vraiment les besoins de base. T'sais, on parle de se loger puis de se nourrir. Je te parle des taux hypothécaires, mais pour les gens qui se magasinent un logement à Québec, c'est le même problème. Je veux dire, les hausses sont faramineuses.
Si on regarde les statistiques, au début 2021, tu pouvais acheter ta maison avec un taux de 0,85%.
Imagine.
C'est malade. Là, on est rendu à 4 % mais quand on regarde aussi au niveau des loyers, l'an passé, ça a été par le tribunal administratif du logement, ce fut l'augmentation la plus haute accordée, c'était 5,8%. Mm-hmm. Et là, on parle de tout près de 4,9 que le tribunal, autrement dit, trancherait pour 2026. Fait que ça veut dire que des locataires à faible revenu vont avoir eu une hausse de 10 % dans les deux dernières années. C'est énorme.
JP qui nous écrit, dit « Salut, je renouvelle mon hypothèque cette année. J'ai signé en 2021 à 1,6 %. » Là, ça. Il ne signera pas en bas de 4.
Écoute, ben non. Moi, j'étais à 2,3 ou 2,4 %. Puis je suis pas à plaindre. Je fais un très bon salaire. Je fais partie des privilégiés. Puis je suis reconnaissant de ça. Mais quand j'ai eu à renouveler mon taux hypothécaire au mois d'octobre dernier, après un mois, j'étais en panique. Je disais, hey, j'arrive plus, moi. Et là, il a fallu que je me rassoie. Puis il a fallu que je recheck mes affaires parce que ça te troue un budget dans le oui. temps de le dire. Moi, je suis pas le gars le plus... Puis je pense qu'on souffre de ça au Québec, la pensée magique. Là. On se dit que, bon, on est du bon monde, il va nous arriver des bonnes affaires, puis ainsi de suite. Puis c'est peut-être pour ça qu'on s'endette plus que les autres. On pèle par en avant. Finalement, on a les gouvernements qu'on mérite hein, quand on regarde ça. Mais tu sais, on est de même. On pèle par en avant, puis on se dit, ben le temps va arranger les choses. Mais quand il arrive quelque chose comme ça qui fait en sorte que là, c'est pas... se priver d'un cadeau ou se priver d'une semaine de vacances. Là, c'est carrément « j'arrive plus parce qu'il faut que je paye mon logement, faut que je paye mon épicerie, faut que je paye ma maison. » Ça va être une année terriblement difficile pour beaucoup de monde.
Denis, j'imagine que tu avais vu ça passer au début des années 2000 parce que tu faisais de la radio à Québec au début des années 2000.
Tu vas me parler de l'escalalier!
On avait un projet
ben oui.
à Québec qui adonne directement en face de chez nous,
ouais.
juste en face des passerelles du frère Montmorency qui montent en ville. Et le dessin, Denis, est majestueux. Là. C'est de toute beauté. Mais la réalité est tout autre, là. C'est pas aussi large, puis rendu en haut, parce que là, tu tombes sur une rue qui est hyper passante, va falloir adapter tout ça. Je regarde le secteur actuel,
oui.
Je regarde le parc Jean-Paul Lallier qui est laissé à lui-même, la fameuse fontaine qu'on avait qui était super belle quand on l'avait mise en place, ben elle fonctionne pas, c'est rendu du béton tout simplement, et les fabuleux gestionnaires qu'on a à la Ville de Québec comptent à peu près 3 ans pour la réparer. On est content que ce ne soit pas eux autres qui travaillent au village vacances Valcartier parce qu'ils se feraient crisser dehors. Mais comme ils travaillent pour la Ville de Québec et c'est des fonds, ben ils ne se feront jamais sacrer dehors. Mais 3 ans quand même pour réparer ce secteur-là dans le parc, je trouve ça hallucinant. Là, on veut faire un bel escalier. C'est suite à une chronique de Karine Gagnon dans le Journal de Québec d'hier que j'ai lu. Elle a ramené l'idée. Pourquoi, je ne sais pas, mais on a posé des questions aux gens, aux hommes et aux femmes d'affaires dans le quartier Saint-Roch. Et les gens appuieraient en majorité l'idée.
Je peux peut-être te ramener dans le contexte de l'époque, parce que oui, on faisait de la radio dans le temps, puis ce dessin-là, on l'avait vu et revu et re-revu. Comment ça avait été reçu à l'époque avec un certain scepticisme, parce que ce projet-là arrivait sur la fin du règne de Jean-Paul Lallier, puis les dernières années ont été pas mal plus difficiles. Un maire qui se renfermait beaucoup sur lui-même, qui refusait ouais. systématiquement les entrevues qui venaient pas de Radio-Canada, entre autres. Puis il y avait eu tout le dossier, on se le cachera pas, là, de la prostitution juvénile et ainsi de suite. Je veux dire, c'était pas un bon mood à Québec, puis on avait l'impression que c'était... un geste un peu désespéré d'un maire qui voulait être sûr que son héritage soit bien présent dans la ville. Ce qu'on détestait pas de ce projet-là, c'est qu'en grande partie, c'est la France qui l'aurait payé dans le cadre du 400e de la ville de Québec. Mais les questions qu'on avait posées à l'époque, c'est des questions que vous connaissez bien parce qu'on se les pose encore dans des projets actuels de la ville de Québec. Un escalier de même, on le déneige comment en hiver? Un escalier de même qui relie des secteurs névralgiques de la Haute et de la Basse-Ville dans l'état actuel des choses. Comment on fait pour faire en sorte que ça ne devienne pas un dortoir à itinérants
voilà.
ou une piquerie à ciel ouvert sans tomber dans le dramatique?
C'est là où je ne m'entendais pas avec Jeff ce matin parce que Jeff dit on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Okay? Souvent, tout le monde dit ça puis ça a bien du sens. Je pense que dans nos vies, on est capable de le faire, surtout quand tu es parent. Là, tu travailles sur plusieurs projets
pas
en même temps.
le
problème,
c'est la clé de la survie.
On dirait que la Ville de Québec n'est pas capable de faire ça, travailler sur ouais. plein de choses en même temps.
Ben,
là, la crise de l'itinérance, là, tu veux pas que ça devienne un dortoir. Moi, je vois à peu près une communauté de 20 à 30 personnes. Jeff, t'es passé il y a de ça quelques
ouais.
jours. Mais juste en dessous des passerelles du frère Montmorency, ces gens-là se sont fait un camp. Un camp pour dormir, un camp pour vivre. Va falloir régler régler le problème de l'itinérance en premier, puis par la suite, travailler sur d'autres choses. T'sais.
Ce qui manque encore cruellement, puis quand on en a parlé hier après-midi avec les filles, moi, ça a été ma première réaction, c'est encore le même problème qu'on a à Québec. On nage d'un vieux projet, on nage d'un vieilles idées, mais on n'est pas capable encore d'avoir une vision qui fait en sorte que les projets sont reliés les uns avec les autres et que tout le monde y trouve son compte. On ne peut pas prendre la DeLorean de Doc Brown pour retourner dans le passé, comme dans le film Retour vers le futur. C'est malheureux, parce que j'aimerais recommander au maire de l'époque de dire « on fait tout avancer dans un gros package ». Pas de troisième lien sans tramway, pas de tramway sans troisième lien. Les deux sont reliés.
Ça, ça existait. C'était le Réseau Express de la capitale en 2015.
T'as raison. T'as raison. Puis ça a boqué sa rive sud. Puis après ça, la Beaume a bougonné de son bord. L'idée de départ, c'était
ben, on
ça.
On a bougonné parce que toi, tu veux pas le tramway. Fait que moi, je voudrais pas de troisième lien.
Voilà. Puis c'est niaiseux parce que c'est l'ego des politiciens ben, oui. qui l'ont emporté sur le bien commun. Parce que moi, je suis convaincu que les gens qui sont contre le tramway, s'ils comprennent que le tramway fonctionne avec le troisième lien, peuvent devenir pro-tramway parce qu'ils comprennent que c'est un projet global où tout le monde gagne.
Exactement.
D'instaurer une œuvre comme celle-là qui change le visage de la ville de Québec puis de faire en sorte que ce soit un lien majeur entre un débouché du troisième lien pour prendre un tramway qui s'articule dans la grande région de la ville de Québec, on le place à un endroit où ça fait en sorte qu'en haut et en bas, tu as des destinations touristiques de choix. Donc, en plus d'avoir le day-to-day du quotidien des travailleurs, ben tu as une destination touristique qui fait que ton monde se promène de haut en bas. Faut que tu trouves des canaux où est-ce que les sans-abri puis les problématiques de santé mentale vont avoir leur spot au pluriel, parce qu'il y en a énormément. Mais pour tout ça, Yann, là, ça prend une vision articulée. Faut oui. que tu voies ta ville au grand complet. C'est encore du patchage puis du morceau par morceau. Le tramway fonctionnera pas parce qu'il est pas assez long, il est pas assez développé, il est possiblement pas dans le bon sens puis il est pas accroché sur rien. Le troisième lien fonctionne pas parce que ça prend permission de la ville de Québec et le gouvernement Legault a seulement choisi les trajets que personne aime et sur la rive sud et sur la rive nord. Il n'y a pas de vision, puis je vais aller plus loin que ça, il n'y a personne qui travaille dans l'intérêt du citoyen, puis dans l'intérêt de convaincre le citoyen que tu es sur la bonne voie, puis que tu travailles pour lui dans un plan articulé où tu pourrais avoir un escalalier, tu pourrais avoir un troisième lien, tu pourrais avoir un tramway, puis tu pourrais dire, garde, tout le monde gagne, personne perd, embarque avec moi.
Mais je suis vraiment content de t'entendre parce que ce qu'on aurait dû faire, ben d'ailleurs, on aurait dû faire le Réseau Express de la capitale en 2015, ça serait réglé.
J'ai tendance à te donner raison.
On serait pas mal à la fin de le faire.
On finirait de creuser nos affaires. Là.
Exactement. Mais cela dit, quand la CDPQ Infra a déposé le plan cité, c'est pas juste le tramway en Hauteville qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu faire les trois branches.
Je suis d'accord avec
puis
toi.
Quand on a fait le pont de l'île d'Orléans, c'est pas juste un pont de l'île d'Orléans qu'il aurait fallu faire. C'est un troisième lien qui est attaché à ça. C'est le manque de vision totale et globale.
Et le manque de connaissance du gouvernement provincial aussi. Je me souviens d'une entrevue avec Philippe Couillard dans notre ancienne vie radio où lui avait l'impression que le pont de l'île d'Orléans fallait le rénover.
Alors
que le contrat pour le démolir avait déjà été octroyé, puis on pensait déjà en bâtir un autre. C'est pour te dire, c'était le premier ministre de l'époque. Là. C'est un peu gênant. Parlons des vraies affaires maintenant. Ce qui touche les gens, Max, à Lévis, on le sait, il y a un moratoire pour ce qui est des nouvelles constructions parce que les trucs je sais pas moi, l'usine d'épuration d'eau, ça fournit plus à
on
la demande.
On suit pas. Ouais.
Les gens de Lévis ont certains besoins qu'ils doivent faire le matin, le midi, le soir, et tout ça doit être filtré.
Chez nous, on chie tous les jours, disait la madame.
On n'est pas capable de filtrer tout ça. Les bacs de rétention pour ce qui est d'épurer tout ça ont beaucoup de difficultés. Donc là, ce que Max m'a appris ce matin, c'est qu'il va avoir des subventions octroyées aux gens qui s'achètent des bidets.
Yes!
T'as-tu ça chez vous, toi?
Je rêve d'avoir un bidet.
Eau chaude, eau froide, je le sais pas. Moi, je prendrais eau chaude parce qu'avoir de l'eau froide dans le truffe, ma grand-mère dirait tu vas pogner les hémorroïdes avec ça.
La première fois que j'ai vu un bidet de ma vie, je savais pas c'était quoi, c'était en Italie. Oui. Puis je trouvais ça bas pour me laver les mains.
Oui.
Puis après quelques recherches sur Internet, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour me laver les mains. Fait que là, je me suis levé parce que j'étais à genoux en avant de la patente.
Oui.
Et là, j'ai dit, ben, je vais l'essayer. Et le temps...
Tu t'es vraiment crissé à genoux?
Ben là, je me
pour dis, te laver les mains?
Ben, je me disais, en Italie, c'est le Vatican, c'est la religion.
Au-dessus de la bol de toilette?
Oui, ils veulent peut-être.
C'est magique.
Mais le bidet est à part. T'sais, c'est un beau bidet, là, à part de la toilette.
Je trouve ça triste que personne ait filmé ça.
Ben, c'est encore beau. J'ai pas pensé que c'était un abreuvoir. mais tu sais, je me disais, t'sais, c'est le Vatican, ils sont religieux ici. Fait que c'est peut-être une petite prière en lavant tes mains ou whatever.
Rome, on fait comme les Romains.
Donc, ben là, voilà, exactement. T'as
donc,
tout compris.
Donc là, ce qu'on m'explique, si on lit l'article dans Le Soleil, si ouais. on en croit ce que Max nous a expliqué, c'est que les gens, en utilisant le bidet à ouais. Lévis, vont utiliser moins de papier.
Oui, exact.
Donc, la boue qu'on envoie directement à l'usine d'épuration serait moins concentrée, donc plus facile à traiter.
Moi, je vais aller plus loin que ça. Hein. Il y a des statistiques qui existent. Combien de pourcentage de merde il reste après ton nettoyage avec du papier de toilette, d'après toi?
Je le sais pas, mais je suis content de ne pas être aveugle.
18%.
Entre 10 et 20% dépendamment de la qualité de ton travail. Okay. Mais il en reste toujours...
Fait qu'il nous en reste toujours de coller des faunes.
Au moins 10%.
T'es-tu déjà demandé ce qu'une personne non-voyante faisait pour justement s'assurer qu'il en reste plus?
Ben, tu regardes-tu, toi, y allant, ou...
Je veux pas
c'est bon feeling.
Je veux pas aller là, mais on m'oblige.
Mais tu vois, pour les non-voyants et pour les autres, le bidet règle un problème majeur exact. D'hygiène qui fait en sorte qu'on gaspille un paquet de papier puis qu'on se torche même pas comme faut.
Savais-tu?
Attends un petit peu. Quand j'ai essayé le bidet pour de vrai puis que j'ai oui. trouvé le bon sens
oui.
puis que j'ai trouvé la bonne position, mon Dieu Seigneur, si j'avais pu ramener le bidet dans mes valises, je l'aurais fait.
C'est le bonheur.
Puis maintenant, à 40-50$ sur Amazon, t'as des petits bidets portables. Audrey en a un.
J'ai un chum qui en a un à 900$.
900$, c'est cher.
Ouais.
T'as un bon bidet, ça?
Au Japon, ils vendent des bidets, Denis.
Ouais.
Eau chaude, eau froide, eau tempérée.
Wow.
Et à ça, on ajoute des haut-parleurs. Et on ajoute des choix de musique.
OK.
Qui va faire en sorte que si... Tout dépendant de ce que tu as à faire,
oui.
la grosse job ou la petite job,
mm-hmm.
puis tu veux pas que ta conjointe entende,
mm-hmm.
ben tu es capable de peser sur le piton, partir la musique, monter le son, te faire nettoyer le truffe, puis toute la job est faite. Puis après ça, tu n'as pas besoin de petites serviettes parce qu'on me dit que quand tu as un bidet un peu cheap, tu dois avoir des petites serviettes okay. quand même, des lingettes
ouais,
pour
ouais,
pouvoir
ouais.
Essuyer l'eau qui reste.
Ça prend un bon débit, là. Ça prend...
Et ce qu'on m'a appris, c'est que ça sèche. Il y en a qui sèchent. T'as un séchoir.
Les toilettes japonaises, ça, c'est non seulement c'est le bidet, mais la toilette au complet, là, toutes ces options-là. Là, fait que c'est les toilettes japonaises sont à un autre niveau. Là.
C'est le bonheur. C'est l'avenir de la société, ni plus ni moins. Profitons de la guerre tarifaire pour importer des toilettes japonaises puis en installer à grandeur avec des subventions. Mmh. Je pour ça, moi.
Ouais. Donc là, Lévis va subventionner les bidets. Je trouve que l'idée est bonne parce que si ça fait sauver de l'argent en bout de ligne pour l'épuration de l'eau. Je trouve ça fantastique. Et les couches jetables aussi pour adultes.
Ah, c'est bien. Dans une population vieillissante où les couches pour adultes, comme en dit chanteur masqué à TVA,
ouais.
c'est peut-être une bonne chose.
Mais si on est rendu pour les couches jetables pour adultes, il faut le faire pour les filles aussi. Les filles qui ont besoin de serviettes sanitaires?
Ben oui. Moi, je te dirais oui.
On doit s'occuper de ça aussi.
Oui. Moi, je suis pour ça.
C'est pas les couches jetables, Marceau, parce que c'est pour l'environnement, fait que c'est les couches lavables.
OK, ça, là, moi, je suis un environnementaliste, là, mm-hmm. OK? Tout le monde sait ça. Avec la mère de mes enfants, c'était clair qu'on allait avoir des couches lavables.
Ouais.
Ça a duré 3 jours.
Je connais des gens plus environnementalistes que toi, puis t'es connais probablement aussi. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était très, très, très écolo, un gars super sympathique, qui lui aussi, quand il a eu ses enfants, il dit « Ben, c'est sûr que ça va être des couches
non.
lavables.
Oh, » non.
Il a pas toffé un mot.
Non, quand ça revole jusqu'à la crête des cheveux de ton enfant, là, tu dis « Je m'en sortirai jamais. »
Fait que t'auras pas de subvention si tu prends les couches jetables. Fait que
là, c'est
pas bon.
Couches lavables.
Oui, exactement, parce que c'est pour l'environnement.
Pour adultes?
Oui.
Ben, pour tout ce que tu veux. Là.
Si je suis un adulte, et que j'ai besoin d'une couche, je veux pas laver mes couches, je veux pas que ma blonde lave mes couches.
Non.
Ça va être jetable. Avec la... Puis je pense que je vais racheter des poubelles que j'avais là, pour les garçons dans le temps, là, où tout se met dans le même sac.
Oui.
Tu sors le sac, il est fermé, tchao,
hey, mais quand tu sors le sac, ça pue à chaud.
Oh, c'est l'enfer. Oh! C'est l'enfer.
C'est l'enfer. Tu peux aussi te procurer avec subvention un maximum 100 $ une fois par 3 ans des sous-vêtements protecteurs contre fuite urinaire.
Oh. Et ça aussi, c'est subventionné.
Ouais, ouais, la liste est dans le soleil, là. Si vous voulez aller voir tout ce à quoi vous avez droit, là. Culotte menstruelle incluant culotte maillot, je sais pas, c'est quoi.
Hey, on aurait dû inviter Stephen Blaney pour nous expliquer ça.
Mais ça, bonjour, c'est Marceau.
Bonjour, c'est Gravel. Oui. Savez-vous, à Lévis?
Je suis pas un trou de cul, mais je m'occupe du vôtre. Mais
c'est Gilles Laulier qui est derrière tout ça, là. Monsieur Blainet n'a rien à voir là-dedans. Là.
Ah, c'est Laulier, ça?
Oui, ouais, c'est un programme qui existait déjà. Là, on l'a élargi pour notamment...
on l'a bonifié. Là.
Exact, pour les bidets. Fait que peut-être que pour ce qui est du bidet en tant que tel, c'est l'idée directement de Monsieur Blainet, là. Mais à la base, c'est un programme qui était là avant, là.
Donc, le fait d'avoir des vieux politiciens leur permet d'avoir des sensibilités sur les couches pour adultes et les fuites urinaires. J'imagine, d'une façon ou d'une autre, c'est un projet visionnaire. Je veux dire, on s'en va dans une société où on va avoir beaucoup plus de personnes âgées qui ont besoin de soins que de gens pour s'occuper d'eux autres.
Mais Denis, il faut sauver de l'argent. Avec tout ce qu'on met en place, les subventions et tout ça, il faut sauver de l'argent. Parce que, tu sais, quand tu as une augmentation de taxes municipales, puis on dit, ben c'est en raison des couches lavables, c'est en raison des bidets qu'on vous paye, c'est ordinaire, là.
Moi, je veux des subventions pour les bidets sur la Rive-Nord. Sans ça, je vais songer déménager avec ma famille.
Surtout que notre maire est plus environnementaliste que celui à Lévis.
Hey, c'est rare que je te fais faire ça, mais peux-tu me faire une promesse?
Laquelle?
Tu vas en parler au maire...
Absolument!
Quand il va venir.
Oh, ben, oui, c'est premier sur la liste. Là.
Puis Audrey sera là pour témoigner des bienfaits du bidet.
On pourra lui demander combien de temps ça a pris avant que tu t'en serves comme il faut. Puis,
Connaissant Audrey, ça a dû prendre quelques semaines.
Oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui.
Oui, exactement. Denis Gravel, je te souhaite de passer une super belle journée. On t'écoute à 14h avec toute ton équipe.
Si vous ne l'avez jamais fait, je vous souhaite d'utiliser un bidet.
Au froid, au chaud?
Ça dépend. Des fois, t'as besoin d'un petit... Moi, le matin, ça sera au froid. Tu sais, ça réveille, ça te... Oups!
Une petite coquetterie?
Pas ce point-là, quand même!
À Québec, en passant, on a un programme du genre, mais pour le moment, un peu comme Lévis auparavant, on inclut seulement, par exemple, les couches lavables pour bébés, jusqu'à 200 $ par enfant, mais les bidets ne sont pas inclus, donc c'est peut-être là, la petite modification qu'il va y avoir à faire.
C'est le temps qu'on devienne des progressistes!
Exact. On l'avait dit à Boulevard, ce qu'on voulait avoir comme image, c'est une station de radio près des gens.
Oui.
Là, on est rendu au bidet, fait qu'on est assez proche.
Ensuite... pas être plus proche que ça!
Comment?
Tu peux pas être plus proche que ça, t'es dedans, littéralement.
Parler des problèmes, donc l'usine d'épuration d'eau a des difficultés, donc il faut les aider. Puis des subventions pour les bidets, donc proposer des solutions. Ça embarque directement dans ce qu'on veut.
Oui, vous écoutez Boulevard 102.1, on s'occupe de vous autres jusqu'entre vos deux fesses.
À la circulation, on est dans les problèmes habituels. Capitale Ouest, un peu avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Et l'accès aux deux ponts direction Nord encore. Quelques problèmes.
Boulevard 102.1. Marceau,